Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale infernale, ça y est, vous commencez à être habitués. Maintenant, le samedi matin, c'est l'émission de Graphite en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne qui forment des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio. Et après, on enregistre donc les productions sous forme d'émission, notre fameuse matinale infernale. Moi, c'est Aurore et j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou le Rendez-vous Culture des bibliothèques. Et ce matin, avec moi, ce sont mes participants donc d'ateliers aux bibliothèques de Compiègne qui sont avec moi, Marion, Fatih, Patty et Benjamin.
Bonjour.
Bienvenue à tous, en tout cas. Eh bien, Fatih, la féministe, je m'excuse, mais aujourd'hui, on commencera avec notre seul chroniqueur masculin, Benjamin.
Tu me provoques, Laura. Tu me provoques.
Je sens que je vais avoir un retour de bâton derrière. À toi, Benjamin.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cette chronique, je vais vous parler de l'addiction aux médicaments. Et donc, je vous ai préparé encore un petit quiz.
Allez, on se réveille en question avec Benjamin.
Première question, combien y a-t-il de consommateurs ?
De médicaments ?
Oui.
Je sais pas. La moitié de la population ?
Presque autant que de Français.
Ouais, moi j'aurais dit 100% de la population, quasiment. Enfin, pas de façon chronique, mais...
Alors
60 millions.
Il y a 3,8 millions de consommateurs réguliers et 8,9 millions de consommateurs occasionnels.
Ah, ouf,
c'est rassurant.
La prise d'un médicament susceptible d'altérer l'aptitude de la conduite est retrouvée chez environ 10 des accidents de la route et 12% des cas de décès par surdose mortelle d'une substance sont dus aux médicaments
Je sens que ça va être un truc difficile à dire là.
Il y a du vocabulaire.
Psychotique. Deuxième question, comment appelle-t-on une personne accro aux médicaments ?
Junkie.
Un drogué.
on est dur.
La pharmacodépendante et la dépendance aux médicaments, principalement aux médicaments d'ordonnance, on remarque un usage abusif des médicaments dans plusieurs catégories, mais surtout chez les benzodiazépines, exemple somnifères, et opiacés, exemple morphine et codéine.
Ah, eh bien, que des noms durs, mais qu'on connaît.
Troisième question, les benzodiazépines, c'est quoi ?
Ah oui, bonne question.
C'est quoi ?
Tu vas nous le dire ?
Oui.
Ouf.
Les benzodiazépines sont des médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale et un effet relaxant. C'est un anxiolytique et un anxiolytique. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'anxiolytique, c'est des médicaments destinés à traiter les symptômes psychologiques et ou somatiques de l'anxiété.
Anxiolytique. Donc, grosso modo, c'est antidépresseur, quoi.
En associant une prise en charge psychothérapeutique.
Okay. Oui, médicamenteuse. Ouais.
Oui. Quatrième question, quel est le médicament le plus addictif ?
Elles sont dures tes questions aujourd'hui. Se réveiller, c'est
dur. Les opiacés, moi j'entendais les opiacés là aux États-Unis. Je pense qu'en...
Ouais, les médicaments qui sont de la famille de la morphine, quelque chose comme ça.
Le tramadol.
Certains sont utilisés en thérapeutique comme puissance antidouleur, morphine, fentanyl et codéine. D'autres, comme des opiacés, sont recherchés pour leur forte sensation d'euphorie et plaisir qui rendent très rapidement l'addictif, ce qui peut entraîner une addiction à des drogues plus fortes et illégales comme l'héroïne.
Avec tous les mots que tu nous as calés là, c'est difficile.
Ouais, du coup, quand on prend de l'héroïne, c'est pas du tout pour ça qu'on est un héros ou une héroïne. Hein.
Non, pas du tout.
Pas de même.
Cinquième question, comment savoir si on est addict aux médicaments ?
Si on ne peut plus s'en passer, j'imagine ?
Si on a des symptômes aussi liés à la prise de ces médicaments ?
Si vous avez tendance à consommer plus de médicaments que ce qui vous est prescrit, sans en parler à votre médecin, car vous voulez augmenter ou amplifier les sensations ressenties sous l'effet de certains médicaments, on peut considérer que vous êtes dépendant.
Ah. Ok.
Sixième question, quels sont les risques d'être accro aux médicaments ?
Oh, bon, c'est assez facile, hein, je pense. Aujourd'hui, dès qu'on a mal à la tête ou dès qu'on a un truc, on cherche un médicament.
Ouais, c'est pas pour ça que t'es accro.
Ça donne des effets néfastes sur la santé.
Ce qui signe l'addiction aux médicaments, c'est l'usage et qui ont fait avec parfois un usage déterminé de son but thérapeutique. Avec une perte de contrôle, consommation de manière compulsive, quelles que soient les conséquences, sont sous peine d'une souffrance physique, psychique ou voire physique.
D'accord, donc quand ça entraîne un différentiel de comportement ou de...
Une souffrance.
Septième et dernière question, comment soigner une addiction aux médicaments ?
Ah, le sevrage. Par d'autres médicaments.
Pardon, super.
C'est pas facile.
Psychothérapie peut-être ?
C'est pas facile parce que c'est douloureux, c'est des situations délicates et souffrantes, quoi.
On t'enchaîne sur un lit.
C'est pourquoi la meilleure manière de soigner une addiction aux médicaments est de se tourner vers un médecin, médecin généraliste, psychiatre, addictologue, etc. Il y a aussi des associations qui peuvent aider les personnes addictes aux médicaments, comme SOS Addiction ou l'ASUD ou Addiction Français.
Ouais, peut-être avec des groupes de parole aussi, comme on voit dans les films des fois.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. Donc, commencez bien votre week-end hein, et ne prenez pas de médicaments si vous pouvez vous en passer. Voilà ce qu'il faut retenir. On continue dans le domaine médical avec Marion et les handicaps en question.
Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ?
Alors, bonjour, chères auditrices et auditeurs et chers co-animateurs. Écoutez bien. Et le premier qui trouve la référence.
Allô, passez-moi Pierre Brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
On est déjà tous morts de rire dans le studio. Alors, je pense que les auditeurs ont retrouvé de quoi il s'agit.
Dites donc.
Un dîner. De con.
Le dîner de con.
Pas un,
oui.
le
dîner.
Mais pourquoi, à votre avis, à quel handicap je peux donc bien faire référence en citant ce film ?
Tu vas pas nous dire. Ouais, ouais. On n'ose pas trop, du coup, tu vois, c'est pas très flatteur.
C'est pas très flatteur à la base. Eh bien, je vais parler de l'autisme. Et oui, car l'obsession de notre cher François Pignon pour ses constructions en allumettes est un des symptômes de l'autisme, appelé intérêt restreint. Cependant, j'arrête là l'analogie au film, car si ce symptôme est un de ceux qui définissent l'autisme, vous vous doutez bien que déterminer si une personne est autiste ou non est tout de même bien plus complexe que cela. Pour continuer, pas de cours d'anatomie aujourd'hui, mais
mince.
Un cours d'histoire. Ce sont Léo Kanner et Hans Asperger qui ont défini l'autisme dans les années 40. Deux courants de recherche apparaissent pour déterminer l'autisme, un se tournant vers des explications génétiques et neurodéveloppementales et l'autre cherchant les causes dans le milieu familial.
Ah bah écoute, moi je savais pas, quand on dit le syndrome d'Asperger, je pensais que c'était quelqu'un qui avait été malade, je pensais pas que c'était le nom du médecin, tu vois, bêtement.
Eh ben voilà, c'est souvent, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'origines. Et en France, c'est ce second courant qui a le vent en poupe, notamment en s'appuyant sur la théorie de Bruno Bettelheim d'un déni de l'existence de l'enfant par les parents, avec une idée psychanalytique de la responsabilité de... En France,
la mère.
Non. La mère.
Non, je suis pas d'accord.
Non, moi non plus.
Eh ben, en France, c'est pourtant ce qui est arrivé, malheureusement, j'ai envie de dire. Et ce n'est qu'en 2012, oui, je dis bien 2012, que la Haute Autorité de Santé indique que l'accompagnement psychanalytique doit être abandonné au profit d'autres méthodes pédagogiques. En effet, le trouble autistique est bien maintenant reconnu comme un trouble neurodéveloppemental et les scientifiques cherchent encore aujourd'hui à déterminer l'origine de ces troubles selon différentes théories. Donc, je ne m'aventurerai pas à vous citer. Oui, je sais, c'est frustrant. Cette chronique va être très frustrante. En 3 minutes, je ne vais pas tout vous expliquer sur l'autisme. Du coup, je vous propose un petit quiz pour connaître un petit peu mieux l'autisme tout de même.
C'est la matinée des questions. Allez, voilà. On continue.
Vrai ou faux, les autistes sont des génies?
Ah oui.
Bah, pas toujours.
Alors, c'est plutôt faux. Bah oui, je sais, on parle de Beethoven, Bill Gates, Albert Einstein, Steve Jobs, Woody Allen, Renman, Greta Thunberg, Suzanne Boyle, récemment. En fait, 70 à 80% des personnes autistes diagnostiquées en France présenteraient aussi un retard mental. Présenteraient. Oui, bah oui, je suis obligée de nuancer, car les outils diagnostiques sont plutôt basés sur une recherche psychique et sans doute inadaptée aujourd'hui. Vrai ou faux, les autistes n'ont pas d'émotions?
Non, c'est faux.
Bah, faux. Bah, c'est faux.
Parce qu'ils peuvent avoir de la colère, tout ça, par exemple.
Effectivement, totalement faux. Ils ressentent les mêmes émotions que nous, mais sont incapables de les exprimer. Ils vont donc rester soit sans réaction ou exploser de frustration. Et il faut savoir qu'ils sont également incapables de déchiffrer les émotions de leurs interlocuteurs, donc vous, notamment expression faciale. Vrai ou faux, la perception du monde par les autistes est différente?
Oui.
Oui.
Eh ben oui. Tout comme les sourds ou les aveugles perçoivent le monde sous une autre perspective, il en est de même des autistes. Ils présentent une hypersensibilité ou hyposensibilité aux stimuli extérieurs. La lumière, le bruit, le goût, l'odorat. Ils ont besoin d'un environnement neutre pour les apaiser. Et vous avez peut-être remarqué que la société commence à le prendre en compte. Là où certains supermarchés ont maintenant des périodes réservées avec arrêt de la musique et baisse des lumières.
Ah ouais, c'est super ça.
Voilà, il y a pas mal de supermarchés maintenant qui proposent ça. Et malheureusement, je suis obligée d'arrêter là ma chronique, car mon temps est écoulé. Mais oui, ça passe vite. Et j'espère pouvoir revenir un jour sur ce sujet de façon plus approfondie. Pour vous aider, cependant, à apprendre un peu plus sur l'autisme, quelques références. Le documentaire « Le cerveau d'Hugo », le film « Hors normes » de Toledano et Nakache, basé sur une histoire vraie, la chronique atypique du philosophe et autiste Asperger Joseph Chovanec, ou le blog de Julie D, Julie Daché, dit « Super pépette, autiste femme, diagnostiquée à 27 ans, autiste Asperger ». Tardivement, oui. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre chroniqueuse Fatih, qui va prendre le relais. Les femmes autistes ont beaucoup plus de capacités sociales, et il n'est pas rare qu'elles ne soient diagnostiquées autistes qu'autour de leurs 40 ans. On est loin des Catherinettes?
Ça ne m'étonne pas, Marion, ça ne m'étonne pas.
Une faillotte, Marion.
Une femme.
Une femme. Bien, hello tout le monde, petite chronique du matin, histoire de bien commencer le week-end pour vous parler de certains odonymes de notre ville impériale. Oui, je sais, encore.
Oui, bien. encore.
Rappelez-vous donc de mes précédentes chroniques, les odonymes sont les noms des rues avec un grand R et les femmes y sont sous-représentées alors qu'elles représentent la moitié de l'humanité. À Compiègne, 6% d'odonymes féminins, c'est pas mal mais peut mieux faire. Bref, j'ai donc voulu aller encore un peu plus loin et j'en ressors avec quelques pépites et suggestions. Ah, la femme, dans l'imaginaire collectif et masculin en particulier. Elle est tout et son contraire. En voici une petite illustration avec Sainte Catherine et la nymphe Atalante. Oui, je sais, les nymphes, il y en a partout à Compiègne. J'ai ainsi repéré le chemin Sainte Catherine, la sainte des femmes d'au moins 25 ans encore célibataires. En France, le jour de la Sainte Catherine était l'occasion pour ces femmes, surnommées les Catherinettes, de prier pour avoir un mari. Avant d'atteindre l'âge de 25 ans, une prière typique aurait été « Donnez-moi, Seigneur, un mari de bon lieu, qu'il soit doux, opulent, libéral et agréable. » Après 25 ans, « Seigneur, un qui soit supportable ou qui, parmi le monde au moins, puisse passer. » Après 30 ans, « Un tel qu'il te plaira, Seigneur, je m'en contente. » Objectif, trouver un mari à n'importe quel prix. Mais je connais aussi un adage populaire qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Mesdames, une chose est sûre, vous êtes libres de choisir, ou pas. Et je dis bien « mesdames » et non pas « mesdemoiselles », car on ne dit pas « mesdamoiseaux ». Vous vous dites peut-être « mais où veut-elle en venir ?» Donc, si vous êtes mariée et ou vieillissante, tu seras madame. Si tu es célibataire ou jeune, tu seras mademoiselle. Par contre, toi, le jeune homme imberbe ou croulant, marié ou célibataire, coureur de jupons ou pas, tu seras toujours monsieur. Vous avez bien compris où je voulais en venir, n'est-ce pas ? Hein, les filles et les garçons ?
Oui.
Non, presque. Eh bien, le choix des mots, en fait, c'est ça que je veux dire, est capital et reflète bien l'état d'esprit de la société dans laquelle on vit, tout comme le choix des noms, des rues, dans lesquelles on déambule. Alors, toucher à la tradition populaire autour des Catherinettes quand elle sert le patriarcat, oups, j'ai lâché le mot, t'as le droit ou t'as pas le droit, qu'en pensez-vous ?
Si, alors, t'as le droit, maintenant, ouais, maintenant t'as le droit, allez.
Quand t'es plus mariée à 25 ans, maintenant...
c'est normal,
oui,
si t'es mariée avant, c'est
trop
bizarre.
Jeune.
Bien, merci. Et j'en arrive à nos nymphes. Je sais, vous les attendiez avec impatience. Eh bien, un sentier me plaît bien. Le sentier d'Atalante. Atalante était une héroïne. Elle a été élevée par Artémis après avoir été abandonnée par son père. L'histoire met l'accent sur son refus initial du mariage et sur ses exploits hors du commun pour une femme dans la société grecque antique. Il est important de noter qu'Atalante a régulièrement inspiré les artistes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elle incarne une femme libre qui fuit les conventions sociales en refusant le mariage ou et la soumission à un homme et qui pratique les mêmes activités que ces derniers, chasse pour se nourrir et voyage ? Cet idéal féminin mis en avant par les artistes est-il en passe de devenir réalité ? Oui et non, cela dépend des contrées. Alors je suis pour qu'on garde à tout prix le sentier d'Atalante. Hashtag je suis Atalante.
Hashtag je suis Atalante. Merci Fatih. Eh bien, Atalante. Je ne crois pas me tromper en disant que le personnage principal de la littérature dont va nous parler Fatih ne considérait pas vraiment les femmes de manière aussi puissante. Pour lui, les femmes étaient plutôt, je dirais, un objet de charme. Patty, tu me regardes, tu nous diras ce que t'en penses juste après. Mais de qui s'agit-il ? Vous le saurez très vite en écoutant la chronique de Patty, la littérature, l'argent et nous. Mais avant, je vous donne un indice en chanson, bien sûr.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter. Il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Gagner le cœur. c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Et
nous voici de retour dans la matinale
infernale.
Alors, avec l'indice musical que je vous ai donné, est-ce que vous avez trouvé qui est le héros de littérature dont Patty va nous parler?
Arsène Lupin.
Lupin.
Ben, trouvé, vous avez trouvé. J'espère que vous, derrière votre poste aussi, vous avez trouvé. Alors, comme tu disais, Aurore, on ne peut pas dire que Arsène Lupin soit vraiment un soutien du féminisme et des femmes en tant que personnage. Mais il a d'autres points d'intérêt, et notamment dans sa relation à l'argent, que je vais essayer d'aborder avec vous. Alors, les auteurs savent nous rendre certains délinquants sympathiques lorsqu'ils volent les riches, qui possèdent plus qu'assez pour vivre, et encore davantage lorsqu'ils donnent l'argent volé aux pauvres.
Robin des Bois.
Par exemple, Zorro aussi. Quelle sorte de relation entretient le célèbre personnage de fiction Arsène Lupin avec l'argent? C'est ce que je vais partager avec vous. Arsène Lupin est un personnage de fiction haut en couleur qui vit parmi nous dans les livres et le cinéma, ce qui lui fait l'âge canonique de 118 ans. Ce n'est pourtant pas un vampire, mais un voleur de haut vol. Il apparaît pour la première fois dans la nouvelle « L'arrestation d'Arsène Lupin », parue dans le magazine « Je sais tout » en juillet 1905. Son créateur, Maurice Leblanc, reprend cette nouvelle dans le recueil « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur », paru la même année. Face au succès grandissant du personnage auprès des lecteurs, ses aventures paraissent de 1905 jusqu'au décès de l'auteur en 1941, dans 18 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Les confidences d'Arsène Lupin, dont nous allons plus particulièrement parler, paraît en 1913. Les aventures d'Arsène Lupin, elles, ont pour cadre la France de la Belle Époque et des années folles, période durant lesquelles Arsène Lupin suit le cheminement de pensée de son auteur. Les sympathies anarchistes de Lupin dans les premiers romans disparaissent dans les ouvrages écrits pendant la Grande Guerre, où Lupin devient très patriote. Surtout, il cesse peu à peu d'être cambrioleur pour devenir détective. Les confidences d'Arsène Lupin sont composées de différentes nouvelles qui sont autant d'aventures qu'Arsène confie en les racontant par le menu à l'auteur Maurice Leblanc. Voyons un peu ce que certaines d'entre elles nous apprennent sur le comportement d'Arsène vis-à-vis de l'argent. Dans « Le piège infernal », Arsène Lupin, accusé à tort d'un vol, oui, cela arrive même à un voleur réputé, réagit en gentilhomme avec magnanimité. Il proteste avec indignation contre une calomnie inventée par une police aux abois. Envoie mes condoléances aux malheureuses victimes et donne à mon banquier les ordres nécessaires pour que 50 000 francs leur soient remis. Signé Lupin. Alors, ressemble-t-il à Zorro, animé par le sens de la justice? Pas sûr. Voici un portrait contradictoire décrit par l'une de ses victimes. Depuis 12 ans, Lupin, et grâce au papier qui se trouvait dans ta poche, j'ai mis le temps à profit. Je connais toutes tes affaires, toutes tes combinaisons, tous tes faux noms, toute l'organisation de ta bande, tous les logements que tu possèdes dans Paris et ailleurs. J'ai même visité l'un d'eux, le plus secret, celui où tu caches tes papiers, tes registres et l'histoire détaillée de tes opérations financières. Le résultat de mes recherches? Pas mauvais. Voici quatre chèques détachés de quatre carnets et qui correspondent à quatre comptes que tu as dans des banques sous quatre noms différents. Sur chacun d'eux, j'ai inscrit la somme de 10 000 francs. Davantage eût été périlleux. Maintenant, signe. Nous apprenons qu'Arsène Lupin a plusieurs identités qui correspondent à des comptes en banque différents. Il est très bien organisé, le bougre. Non, Lupin ne ressemble pas à Zorro, qui vit dans un milieu aisé. Zorro ne convoite ni argent ni biens. Il est désintéressé. Dans la nouvelle « Le signe de l'ombre », Arsène devine où se trouve la richesse astucieusement bien cachée par l'ancêtre d'une famille. Et il restitue aux héritiers cette part, tout en prenant sa part du butin. Il aurait bien pu voler cette fortune, mais ces personnes malheureuses lui ont fait pitié. Nous apprenons aussi qu'Arsène a une bonne intuition et un bon raisonnement pour trouver de l'argent. Il a du flair. Dans l'écharpe de soie rouge, ne pouvant tout traiter lui-même, Lupin embauche, sans son réel consentement, son fidèle ennemi, le policier Ganimard. Il lui explique pourquoi. « Je n'ai pas le temps. À l'heure actuelle, je suis débordée de besogne. Un cambriolage à Londres, un autre à Lausanne, une substitution d'enfants à Marseille, le sauvetage d'une jeune fille autour de ce de Quiro de la mort. Tout me tombe à la fois sur les bras. Alors je me suis dit, si je passais l'affaire à ce bon Ganimard, maintenant qu'elle est à moitié débrouillée, il est bien capable de réussir. Et quel service je lui rends ? Comme il va pouvoir se distinguer ? Bien sûr, quand il aide l'inspecteur Ganimard pour une enquête criminelle, c'est qu'il a à y gagner. Il récupère ainsi un saphir de valeur à la barbe de son adversaire dont il se sert. Arsène Lupin est-il un voleur psychopathe, en grande partie inconscient ? Non, car même s'il transgresse la loi, il est conscient des conséquences de ses actes et ressent des émotions, une certaine empathie vis-à-vis de ses victimes ou des personnes vulnérables. Il vole uniquement des personnes riches. C'est toute sa complexité qui nous le rend sympathique à nous lecteurs.
Bien, merci Patty pour cette analyse de Lupin qui, il me semble, aura une deuxième partie un peu plus tard. Hein. Absolument. Eh bien, j'ai hâte d'avoir la suite. Tout à l'heure, on a parlé d'autisme avec Marion et de difficultés justement à décoder les émotions pour les autistes. Eh bien moi, je vais vous parler de comment raconter une émotion à l'écrit pour bien sûr éviter les erreurs de débutants. All I'm asking you is don't write me off just yet. Alors, savez-vous comment faire passer des émotions à l'écrit ? Vous avez sans doute déjà versé une larme en lisant un roman, mais par quel miracle ? Ou même avoir un éclat de rire, on peut considérer que c'est une émotion, mais voilà. En tant qu'auteur, les mots sont nos armes, mais ils sont nos moyens, ils ne sont pas un but en soi. Je m'explique. Les personnages ont une facette. Les personnages. Sont une des facettes les plus importantes d'une histoire. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre chronique, en tout cas à mon sens. Ils sont plus importants que l'univers et même peut-être plus importants que l'intrigue elle-même. Parce qu'une intrigue banale, qui est soutenue par des personnages attachants et convaincants, peut fonctionner. Mais pour ça, il faut que vos lecteurs croient à vos personnages et pour ça, il faut créer de l'émotion. C'est une cascade, en fait. Hein. Comment faire ? L'émotion est souvent communicative. Si votre sœur est triste, vous allez sans doute vous sentir vous aussi un peu triste. Pourquoi ? Parce que vous allez voir sa mine déconfite, pâle, ses yeux rougis par les pleurs. Peut-être même qu'elle se laissera aller à pleurer dans vos bras. Dans les livres, c'est la même chose. Ayez une approche par les faits et non par les mots. N'écrivez pas « il est stressé ». Erreur de débutant. Écrivez plutôt « c'est la mâchoire crispée et la carotide battante qui tortillonne ses mains moites, tandis que sa jambe droite est prise de tremblements frénétiques. Si vous dites juste « il est stressé », vous encouragez votre lecteur à la passivité et donc à l'ennui. Vous le privez de sensations. Montrez au lecteur, laissez-le imaginer, visualiser votre personnage en faisant passer les émotions par de la description d'attitude, de mimique, de réaction. Vous permettez à votre lecteur de rentrer dans l'histoire de façon active. Vous déclencherez chez lui une réaction d'empathie. Et il n'en aimera que plus votre récit, car il s'attachera à vos personnages. Avec cette technique, même un méchant peut devenir attachant. D'ailleurs, on parlait de Lupin qui était complexe et qui était sympathique. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé, Patty. Et pourquoi ? Parce qu'on voit en fait toutes ces actions. Et en fait, c'est l'action qui fait la description des actions et des réactions qui déclenche ça. Si vous aviez peur qu'on ne comprenne pas ce que vous vouliez faire passer en tant qu'auteur débutant, c'est normal, puisque ce qui est clair pour nous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a mille et une façons de faire passer une émotion. Dans ce cas, faites relire le passage que vous avez écrit à des proches, c'est mieux que rien, ou à des alpha ou bêta lecteurs. Donnez à lire en l'état, sans poser de questions, ni donner d'explications, pour ne pas biaiser le jugement. Ensuite, posez-leur des questions ouvertes, à frais, une fois qu'ils ont lu. Du type, qu'avez-vous ressenti en lisant ce passage ? Cela vous permettra de mieux aiguiller votre scène, si besoin, de la réécrire. En conclusion, mettez-vous, auteur ou autrice, à la place de vos personnages. Rentrez vraiment dans leur peau, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur trip. Décrivez les manifestations des émotions qu'ils traversent. Votre lecteur pourra donc s'identifier à lui, y retrouver des sensations qu'il a lui-même vécues ou qu'il peut comprendre. Et votre récit n'en sera que plus engageant.
Merci.
Merci Aurore pour tes conseils.
Oh, merci Fatih, je crois que c'est bon, j'ai redoré mon image auprès de Fatih la féministe. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à vous, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Nous allons finir en musique, bien sûr, puisqu'on a parlé pas mal de médicaments, de se soigner, des émotions aujourd'hui. Et je vous propose qu'on se soigne en musique avec le groupe Thérapie Taxi et la chanson Été 90. Ça vous va ?
J'adore.
Parfait.
Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale
infernale.
On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repoussé la faune, compliqué les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques. Et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus. Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour, amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis